des livres plein les oreilles. Salut, salut, salut à vous toutes, à vous tous, auditeurs, auditrices de cette émission des Livres Plein les Oreilles, qu'on peut écouter à Canal M, bien sûr, la web radio de Vues et Voix, mais également sur les ondes de CKVL, et puis quand bon vous semblera, en balado, etc., etc. C'est Clotilde Seille qui vous parle, une Clotilde Seille qui s'est dit, tiens, c'est vrai, on m'a fait remarquer de façon très gentille, d'ailleurs, que je m'intéressais un peu, beaucoup, passionnément, trop peut-être, à la cause des femmes via la littérature. Je ne me suis pas senti attaqué, je vous rassure, plutôt, mais j'ai réfléchi et je me suis dit oui, c'est vrai. Mais il faut dire que les livres sur la masculinité, ça ne court pas les rues. Et voilà que je vois s'afficher dans notre catalogue de livres audio le bouquin de Robert Blondin, qui s'appelle « Le guerrier des armées », dont j'extrais ces mots de la quatrième de couverture, « L'individu mâle, lui dont l'identité a longtemps été associée au comportement guerrier et dualiste, ne sait plus où donner du panache et du sabre ». Voilà, je tenais le bouquin sur l'humanité et je m'entretiens dans quelques instants avec son auteur, et son lecteur, Robert Blondin, puisque le livre existe en audio, sinon je n'en parlerai pas à l'émission. Également en audio, je vais parler avec Lily Pinsonneau qui nous a offert son premier livre en 2017, sauf que j'ai rien dit. Un livre comme une bonne couverture de laine, dit-on, idéal pour des soirées de fin d'été. Et puis encore à l'émission, grosse émission aujourd'hui, puisqu'en entrevue, je vais m'entretenir avec Michèle Corbeil, qui est la grande prêtresse de la messe littéraire de la lecture à haute voix, qu'est le FIL, le Festival international de la littérature, qui va se tenir cette année en formule covidienne, du 18 au 27 septembre. Après toutes ces réflexions, on aura peut-être raison et besoin de prendre l'air et de s'activer la musculature. Alors j'aurai pour vous des suggestions de bouquins à écouter pendant que vous vous ferez aller soit à courir ou simplement à prendre une bonne marche. Alors, dans quelques minutes, nous allons parler des mâles avec l'ami Robert Blondin. Juste avant, ceci.
C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton, lui c'est un mâle. J'aime son nez tout écrasé, sa mâchoire en or plombé, dans son teint pâle. Il peut me prendre mes sous, il peut me filer des coups, sans que je râle. Il a des gros biscottos, mais c'est lui que j'ai dans la peau, c'est le mâle qu'il me faut.
Les préoccupations identitaires des hommes ne sont pas une mode, mais bel et bien une mouvance sociale importante. Mais on ne remet pas en question des millénaires d'attitudes sans faire des remous. Et les hommes sont remués. Malheureusement, il arrive quelquefois aux questionnements identitaires masculins de se structurer, de s'explorer et de s'exprimer d'une façon dite féminine, ou d'aller dans le sens inverse et de se réfugier dans un machisme folklorique. On les entend alors se chercher un cri de guerre au fond de la gorge en brandissant un tomahawk de fin de semaine. Ils se réunissent autour des émotions en oubliant que le faire leur est essentiel. L'homme rose est alors ému, certes, mais passivement. Il s'émeut de s'émouvoir. On comprend de mieux en mieux que le « faire » n'est pas exclusivement masculin et que l'attendrissement n'a jamais été l'apanage des femmes. Mais il me semble que ce n'est pas en se limitant à un comportement stéréotypé féminin que les hommes finiront par sortir de leur propre stéréotype. Ce livre questionne le faire ancestral des hommes et cherche une voie de transformation, un moyen de les faire sortir de leur impasse historique.
Bonjour Robert Blondin.
Bonjour Clotilde.
Ça va bien? J'ai comme entendu un petit rire dans votre voix.
Oui, ben, quand on parle d'homme rose, on a toujours un petit rire.
Oui. Hein. Ah non, parce que alors, moi très honnêtement, Robert, quand je me suis plongé dans la lecture de votre livre, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué? Honnêtement.
Et moi, non.
Mais justement, c'était la question que je voulais vous poser. Alors, pourquoi vous d'abord?
Ben, c'est une question de circonstance. Ah. On était en 1994 à l'époque, et Guy Corneau faisait des ateliers pour hommes, etc. Et j'ai assisté à un de ses ateliers, et j'ai invité Guy, les provoquer en fait en disant si on faisait une émission de radio. Alors j'ai amené des micros, j'ai tout apporté. On a enregistré beaucoup de choses dans une de ses ateliers, Et, finalement, on a fait une émission de radio qui a eu un succès énorme. Et après l'émission, on a eu je sais pas combien de douzaines de téléphones qui disaient « on devrait faire ça de façon plus généralisée, etc. » Et dans la foulée, avec Guy Corneau, ben, j'ai fondé avec lui le réseau Hommes Québec, où les hommes, on a structuré un peu les choses, et ça a eu un succès énorme. Il y a eu milliers et des milliers de membres, ça s'est exporté en Europe, où il y en a encore plus de 12 000 hommes qui participent à ces ateliers. Des ateliers qui sont très simples, c'est-à-dire que ça permet aux hommes de retrouver un peu l'expression de leurs émotivités, de leurs sentiments, où c'était pas tellement permis. Un machiste exprime difficilement ses émotions. On a pas mis d'affaires. C'était dans la foulée, on parlait d'Homme Rose tout à l'heure. C'était évidemment l'origine de tout ça, c'est le féminisme. Et c'était un impact du féminisme de voir que les hommes voulaient bien tenir compte de ce féminisme-là, qui était à ma foi parfaitement justifié. Mais alors là, c'était pas. On a tombé dans l'autre excès, on est devenu très rose. Et en démonisant, si on veut, le moindre réflexe masculin d'exercice du fer par la guerre, par l'agression, par la chasse, tous les clichés qu'on voudra sur la masculinité, on se disait il y a une autre façon de faire, et c'est ce qu'on a essayé de trouver avec ces milliers d'hommes.
Et d'ailleurs, votre titre est d'une éloquence fantastique, « Le guerrier des armées ».
Ben oui.
Ben oui.
On est tous des guerriers. Mm-hmm. Et le féminisme nous a désarmés.
Oui.
Alors, on fait quoi, tu sais, on monte sur le destrier, mais il n'y a plus d'épée, il n'y a plus de lance.
Autrement dit, est-ce que c'est un livre qui est destiné à dire aux hommes, vous avez le droit tout à fait de vous poser des questions, vous avez le droit de ne pas vous sentir bien dans votre peau, vous avez le droit...
Oui, non seulement vous avez le droit, mais vous avez le devoir.
Vous avez le devoir.
Quand vous n'êtes pas bien dans votre peau. Et d'autre part, ça voulait dire aussi, on peut s'améliorer, on peut enlever tous les côtés négatifs, manipulateurs du machisme, pour arriver à avoir quand même une identité masculine. Mmh. Le fait que, bon, les gènes, tout l'endocrinien du mâle sont là. On a besoin d'exercer l'agressivité, c'est un grand mot, disons, une action assez forte.
Mm-hmm.
La preuve, c'est regarder les succès énormes des sports professionnels, le football, le hockey de ce temps-là et tout ça. Les hommes transposent leur agressivité souvent dans ces sports-là. Mm-hmm. Et quand il y a un but qui est compté, on crie comme si on venait de gagner la guerre des Gaules. Mm-hmm. Et si on se fait compter un but, on est prêt à trucider tous les joueurs de l'équipe favorite. Alors,
c'est d'autant plus vrai, Robert, et pardon de vous interrompre, mais maintenant que l'on voit des équipes féminines briller dans des sports où auparavant on ne voyait que des hommes, on s'aperçoit à quel point c'est beaucoup moins violent, c'est justement beaucoup moins guerrier. On est beaucoup plus dans le sport. Je pense au soccer, par exemple. Tout d'un coup, la Terre s'est réveillée après la Coupe du Monde féminine en se disant, non seulement elle joue bien, mais on n'a pas affaire à des cris hystériques, on n'a pas affaire à des coups, on ne chiale pas après l'arbitre. Enfin, bref, alors donc, c'est ça aussi, la femme, donc, c'est ça.
Oui, mais Clotilde vous fait remarquer qu'il existe aussi. Il existe aussi du football féminin et du hockey féminin.
Oui, absolument.
Et ce qu'il fait, ce sont les mêmes règles ou à peu près. Et ce qui est drôle, c'est regarder un joueur de football ou un joueur de hockey, c'est une armure qu'ils ont. Quand on regarde l'équipement de protection qu'ils portent, c'est une armure énorme. Et les femmes ont revêtu cette armure-là.
Oui.
Mais pour jouer, on s'amuse. On a transposé une agression réelle jusqu'au viol, si on veut, par une espèce d'agressivité de jeu.
Oui.
Et quand le sifflet se fait entendre, eh bien, le jeu est terminé.
Oui. Oui, d'ailleurs, combien de fois n'entend-on pas, pendant qu'ils font ça, ils font pas autre chose, malheureusement.
Oui. C'est... Ça, je vous laisse conclure
là-dessus. Non, c'est pas une conclusion. Le livre, vous nous l'avez précisé tout à l'heure et j'allais le souligner, a été écrit en 1994. Aujourd'hui, ouais. Est-ce que vous écririez exactement la même chose?
Bon, il y aurait des nuances.
Par exemple, j'avais noté, si vous me le permettez, en page 147, j'avais pris une note ici. Pourquoi j'avais écrit 147 sur la guerre des
mouches? La page 147 que tout le monde connaît, bien sûr.
Exactement, parce que c'est le paragraphe qui concerne le mythe sur sa monture. Non, c'est parce que c'est moi qui me repère à ce moment-là. Le mythe sur sa monture. Toujours cette importante récurrence du mythe du héros. Le mythe, selon Freud, nous permet d'atteindre l'inconscient en nous, l'universel au cœur de nos particularités. Ce sont nos métaphores de compréhension. Le danger consiste à vouloir devenir à tout prix un héros soi-même. Et les héros, précise votre ami Corneau, qui d'ailleurs a signé la préface de votre bouquin, ont toujours quelques tâches à accomplir et nous offrent le spectacle de fourmis industrieuses. Ils font en sorte de n'avoir jamais un moment de vide. Le regard admiratif des autres les soutient et c'est pourquoi ils obéissent aux valeurs collectives.
Écoutez, on peut traduire ça de façon très simple en disant à quel moment les hommes, pour la plupart en tout cas, éprouvent une anxiété, sinon de l'angoisse, c'est quand ils n'ont rien à faire. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'ils fassent quelque chose. La femme est plus contemplative jusqu'à un certain point, pour toutes sortes de raisons que je vous laisserai expliquer avec joie. Mais dans le cas des hommes, il faut faire quelque chose. On accomplit quand on fait quelque chose, et quand on parle des mythes, on admire ceux qui font non seulement beaucoup de choses, mais des choses qui sont avec de la gloire, avec de la richesse. On admire ces gens-là parce qu'ils font des choses. Mais on oublie de penser que pour l'être humain, il n'y a pas que de faire des choses. Il y a ressentir des choses.
Oui.
Il y a le fait d'avoir des convictions, de les exprimer, et ça peut toujours faire quelque chose. Mm-hmm. C'est un des grands errements, si on veut, de la masculinité, c'est d'avoir tout investi dans le faire et très peu dans le ressentir et l'émotion.
D'ailleurs, vous dites aussi à un moment donné, et là, je saute littéralement sur cette perche, vous écrivez dans La mouvance du mal, vous dites aussi que de plus en plus, l'armure se déchire, que l'homme montre ses blessures, qu'il cache moins sa vulnérabilité. Du coup, faire moins, c'est peut-être s'ouvrir un peu plus, dire un peu plus quand on a mal. C'est oublier papa qui disait « tu seras un homme, mon fils », et puis arrête de pleurer, t'es pas une fille.
Voilà. Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est la passivité. On a peur de la passivité parce qu'on devient vulnérable.
Oui.
On devient une cible, on devient une antilope devant des lionnes. Et ben ça nous crée des angoisses, c'est tout. Alors, faut faire quelque chose. Mais on peut ne pas faire quelque chose et penser, tout simplement, et ressentir, tout simplement, et l'exprimer par les arts ou autrement.
Oui.
Par le sport, il n'y a pas de problème.
Bien sûr.
Mais il y a un autre phénomène qui n'était pas vraiment en 94, dont on pourrait parler maintenant. C'est les dénonciations qui existent maintenant. Quand on parle de vulnérabilité, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ne se sentent pas vulnérables de se faire attaquer à tort ou à raison, par une dénonciation vraie ou fausse, qui va complètement le remettre en question et même ruiner sa vie. Ça se passe actuellement et c'est la nouvelle vulnérabilité des hommes.
Oui, mais bon, non, je ne vais pas m'embarquer là-dedans, c'est un autre débat. Mais enfin, on sait bien que si c'est aussi bouleversant, c'est parce qu'il y a quand même depuis des millénaires un espèce de droit de cuissage qui existe et que là, tout d'un coup, celles qui se sont toujours tues, elles s'ouvrent la boîte, si vous me permettez l'expression.
Elles ont parfaitement raison, je suis d'accord avec vous. Ces exactions-là ont eu lieu à travers toute l'humanité.
Et ont lieu encore.
Et attention, ça existait contre les femmes, mais ça existait aussi contre les enfants.
Exactement.
En général.
D'ailleurs, vous dites à un moment donné, pour revenir plutôt aux femmes, là j'oublie un peu la partie enfant, mais à un moment donné, vous dites que derrière chaque homme se cache un petit Casanova.
ou un Don Juan.
Comment?
Ou un Don Juan,
oui. C'est un peu moins...
C'est pas pareil.
C'est pas pareil. On est plus dans la séduction chez l'un et dans...
Ben, le Casanova veut conquérir toutes les femmes.
Oui.
et le Don Juan cherche la femme chez une ou des femmes.
Oui. Enfin, écoutez, en tout cas, je me suis dit dans quoi je me suis embarquée, mais finalement, je me suis prise à me passionner complètement pour ce guerrier désarmé. Et je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je voudrais préciser à nos auditeurs que vous l'avez lu, donc vous-même, hein, on en a entendu un extrait au début de cette entrevue, et que ce guerrier désarmé, eh bien, il est à lire ou à entendre aussi via le catalogue livreaudio.vusezvoix.com. Merci beaucoup, Robert Blondin.
Écoutez, Claudine, de votre intérêt pour ce livre, c'est perçu par moi comme un grand compliment.
Oh, mon Dieu, je suis toute rouge. Merci, Robert. Je vous souhaite une belle fin de journée.
Au revoir. Au plaisir.
Au revoir.
Joseph était un ami d'amis, les fameux amis d'amis, que j'avais rencontré 5 ans plus tôt par un des hasards de la vie qui servent, pour la plupart, à rien. Sauf quand on décide de leur sacrer une signification dans le fond de la gorge. Joseph et moi, on se tenait avec le même monde et ça a donné qu'on passe une journée complète ensemble, en février. Je dis février de même, là, mais me semble que je me trompe pas, je me souviens, on était pâle. En même temps, qui est pas complètement pâle à 19 ans? On s'est rencontrés sur le plateau de tournage du film d'un gars en cinéma. Un film d'auteur, pas d'auteur. Joseph faisait l'éclairage, moi je jouais un rôle muet, avec brio sûrement. Joseph, dans ma vie de fille de 19 ans, un beau coup de vent. Non, même pas, plus genre une brise, mais même à ça, une brise a cette particularité d'arriver quand on l'attend plus. C'était même pas ça, Joseph, je sais même pas comment décrire le rien qui nous unissait. Bon, oui, on riait des mêmes blagues, mais on n'en faisait pas ensemble, ou peut-être que oui, mais je m'en souviens pas. Il était le chum d'une fille que je connaissais, Mathilde, avec qui je m'entendais bien. À la fin de la journée, on s'est dit bye. Même pas d'histoire de café qui s'éternise, ni de connexion particulière, juste bye. Je pense que j'ai même pas osé dire son nom au bout de mon bye, genre juste salut, là.
J'adore ça. Bonjour, Lily Pinsonneau.
Bonjour!
Régal de vous lire et régal de vous entendre, parce que votre façon d'écrire, on va en parler beaucoup pendant ces quelques 10 minutes, et cette façon de le lire, on n'a tellement pas l'impression que vous avez un bouquin sous les yeux, quoi. Tu sais, c'est comme si, il faut que je te raconte une histoire. Puis cette histoire-là que vous nous racontez dans votre premier roman, parce que ça, c'était le premier qui est sorti en 2017, sauf que j'ai rien dit. Moi, je me suis écrit, c'est une pas d'histoire d'amour avec Joseph.
Ah oui, c'est exactement
ça. Ah, ça vous aurait plu, ça, hein?
Oui. Vous avez bien saisi la pas histoire.
Ah oui. Et alors, et je suis allée voir vos blogs, parce que vous êtes vraiment une femme de mots, hein. Vous avez étudié en littérature et vous écrivez des blogs, hein, dans ma-querelle.net, où d'ailleurs votre nom ne figure jamais.
Non, exactement. Ah. J'avais besoin de cet espace-là quand j'ai commencé à écrire sans signer mes textes.
Et honnêtement, je me suis dit que ce livre-là, c'est comme aussi une succession de blogs sur cette pas d'histoire d'amour avec Joseph. Vous avez une écriture très serrée. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de dialogue, vous savez, comme quand on est jeune puis qu'on a tout d'un coup, on a un premier bouquin, un vrai bouquin, là, un vrai bouquin, pas d'image. Là. Et là, il n'y a même pas de paragraphe. Ouh là là, des mots, puis c'est... et donc, vous ne dites rien, mais derrière ce rien, il y a tout ce qu'on voudrait dire quand on nous demande comment ça va, puis qu'on répond « ça va bien ». Qu'est-ce que tu fais? Rien. Et vous mettez les mots là-dessus, Lily Pinsonneau.
Oui, ben j'essaie. On me parle souvent aussi de la quotidienneté que je décris. Moi, j'écris à propos de la quotidienneté, en fait. J'écris
ouais,
une langue quotidienne, j'écris des événements du quotidien. On est loin de la science-fiction, là.
Ouais. Oui, mais on le redécouvre, ce quotidien, avec vous, parce que vous le fouillez tellement qu'il y a des gestes que parfois, que vous décrivez dans le bouquin, nous, on ne s'aperçoit même plus qu'on les fait. Et pourtant, ils sont importants.
Mm-hmm.
En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vraiment ressenti. Alors, justement, là, vous dites, c'est juste que, à un moment donné, c'est dans vos dialogues, je ne sais pas quoi te dire pour que ça ait l'air de ce que c'est pas. J'adore cette phrase-là. Alors, cette histoire d'amour qui n'en est pas une, mais elle est quand même très amoureuse, on s'entend.
De ce qu'elle connaît de l'amour, c'est ça qu'elle dit. À un moment donné, elle dit, qu'est-ce que je connais de l'amour finalement? Mais oui, je pense que clairement, dès le début, si elle n'est pas amoureuse de lui, elle est amoureuse de l'idée qu'elle se fait de leur histoire. Là. Elle fantasme beaucoup, beaucoup sur... leur métaphore, sur ce qui n'arrive pas, mais ce qui pourrait arriver, sur des histoires qu'elle fait dans sa tête à partir de bribes de conversation
Ah oui, puis alors après, ça donne lieu à des échanges, à des dialogues absolument savoureux, où tout d'un coup, lui, il se met à lui parler de truites et de... En tout cas, c'est vraiment... Puis combien de fois il y a OK quoi? Non, bah OK, continue. Ah, OK, donc, alors ça va, je continue. Mais c'est nous. Écoutez, moi, j'ai été emballée par votre écriture, Lily. J'ai même pris une note à la fin du livre où j'ai écrit la première personne, comment j'ai écrit ça, la première personne qui me dit que la littérature d'aujourd'hui et la littérature en plus via, et ça c'est ce qui arrive beaucoup dans le livre, via les textos, via Messenger et compagnie, c'est absolument rempli d'inepties, ça n'est pas construit, c'est... Je vais leur dire, va lire Lily Pinsonneau. Parce que je trouve que vous parvenez à faire de la littérature contemporaine et du langage contemporain un vrai grand bouquin littéraire. En tout cas, c'est ce que je pense.
Ah, ben c'est très gentil. Puis pour moi, ça veut dire qu'en plus, j'ai réussi mon défi parce que vous avez compris ce que je voulais faire avec ce projet d'écriture-là. Puis c'est que des fois, je rencontre des personnes qui comprennent moins ce que j'ai voulu faire avec le projet. Puis je me remets en question. On se remet tout le temps soi-même en
bien
question
sûr.
Avant de remettre les autres en question. Puis là, vous me dites exactement ce que j'ai voulu faire. Puis comme des fois, je trouve quand même qu'il y a de la littérature sur des boîtes de céréales. Là. Tu sais, ça dépend si les mots sont bien alignés. Puis c'est ça qu'on a envie de lire cette journée-là.
Mais
pour moi, ça reste de la littérature. Là.
Mais c'est tellement ça. Et puis... Le sens de l'image, et là, quand on parlait de la quotidienneté, à un moment donné, vous lui faites dire à Joseph qu'il a gagné 1 million, en tout cas, peu importe que ce soit vrai ou pas. Et alors, qu'est-ce que tu en as fait? J'ai acheté une Mercedes et 2 popsicles. J'adore ça! Je me roulais par terre tellement j'aimais ça! Même les photos! Ça, c'est dommage. Je ne sais pas, là, qu'est-ce que vous avez fait pour les photos? Est-ce que vous les avez décrites en audio?
Je les ai décrites.
Bon,
vous allez voir ce que je vois en plus dans la photo.
Ah bon, parce que là, ça, je l'espérais. Honnêtement, parfois, quand je travaille sur un texte, j'aime mieux l'avoir par écrit parce que ça me permet de prendre des notes, bien évidemment, ce que le livre audio ne me permet pas. Et justement, je me disais, j'espère qu'elle a décrit toutes les photos qui sont là, qui sont des photos qui résument très, très bien tout ce que vous écrivez et comment vous l'écrivez. Alors, il y a entre les deux une espèce d'honnêteté désarmante. Ils se disent parfois des choses. Par exemple, la première fois qu'ils se rencontrent, mais en même temps, ils disent rien, quoi. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça, la communication, aussi, en ce moment. Aussi, à un moment donné, je voudrais revenir là-dessus, vous dites une phrase vraiment géniale. Baiser ou faire l'amour, c'est facile, mais jaser pendant plus de 2 heures en bobette, dans un lit. Et ça, vous pouviez le faire avec Joseph.
Ouais, ça, pas tout le monde est capable de le faire. Baiser, ça, tout le monde est capable de le faire, mais jaser et que ça reste intéressant, ça, pas tout le monde.
Non, c'est ça, exactement. Lily Pinsonneau, et votre expérience en tant que lectrice, vous avez aimé ça? Puis vous, puisque vous avez lu ce livre vous-même.
Oui, j'ai aimé ça. J'ai trouvé que c'était très physique, la lecture, de lire autant puis aussi vite. T'sais, j'ai souvent fait des lectures publiques, mais jamais des blocs de 3-4 heures quand même. Là. Puis il y a quelque chose qui se passe dans le corps quand on lit pendant longtemps, là, ça devient vraiment épuisant. Mais pas juste, j'aurais pu penser que c'est juste, mettons, mon appareil vocal là, qui est épuisé ou ma bouche qui est sèche. Mais non, c'est vraiment tous les muscles qui participent à la lecture, là. Puis ça, j'étais surprise de ça, mais j'ai vraiment apprécié. J'étais contente d'avoir la chance de lire mon propre livre.
Est-ce qu'il y a des fois où vous vous êtes dit « Oh, zut, je l'aurais écrit différemment, ça? »
Ouais, puis je l'ai changé.
Ah! Vous êtes allée jusqu'au bout!
Oui, parce que j'ai quand même écrit ce livre-là il y a quelques années.
Oui.
Puis là, ben, la personne avec qui j'enregistrais, il se rendait compte que je changeais des mots, mais j'étais comme, c'est moi qui décide.
Ah ben oui, absolument.
J'ai personne d'autre à consulter, là, je le fais. Puis c'est aussi parce que j'écris une langue qui est très orale, puis je voulais m'arranger pour que tout... C'est que c'est les dialogues qui étaient très difficiles à faire aussi.
Ah oui, mais
des fois, j'ai comme ajouté des introductions ou des conclusions au dialogue pour qu'on comprenne bien qui parlait quand. Ça a été un travail de réécriture un petit peu. Mais aussi, des fois, quand je trouvais que ça se disait mieux autrement, je le changeais. Je me donnais la possibilité. Mais ça reste la même histoire, là,
Oui. Alors donc, je vais recommander à tout le monde de lire cette pas d'histoire d'amour, qu'en est une en même temps... vraiment contemporaine entre ces deux poètes en même temps, parce que vous avez tous les deux quelque chose de vous êtes vraiment dans la poésie de la vie, dans la réalité aussi, mais dans la poésie aussi. Et moi, je vais dire à tout le monde, lisez Lily Pinsonneau. Je voudrais remercier publiquement Marie-Ève Grou, qui travaille avec nous, qui m'a dit que c'était une bonne copine à vous, puis qui m'a dit, as-tu déjà reçu Lily Pinsonneau, celle qui a écrit entre autres, sauf que j'ai rien dit, et c'est maintenant en livre audio. Ben, j'ai dit, ben non, je connais pas. Ah, je me suis ruée là-dessus, et vraiment, merci Marie-Ève. Et
ben
merci,
oui,
Lily.
Merci Marie-Ève, merci à vous aussi.
Et là, puis, alors quand est-ce qu'on enregistre le deuxième?
Ben j'attends votre appel.
Ah, d'accord. Alors, autrement dit, je vais tout de suite aller dans le bureau de la direction en disant, bon, il y en a un autre qu'il faut lire. Et on va, en plus, ce sera pas difficile. C'est l'autrice elle-même qui lit ça. Vous dites autrice ou auteur?
Ça dépend des fois. C'est vraiment, ça a été tellement long. Tu sais, vous disiez tantôt que je signais pas mes textes, là, sur mon blog. Ça a été tellement long avant que j'ose dire que j'étais auteur.
Ouais.
Que là, après ça, quand autrice est arrivée, là, j'étais comme, oh là là, on dirait qu'il fallait que encore ça... Mais quand c'est à l'oral, par exemple, je participais à une émission de radio, je disais autrice quand on parlait d'une autrice, juste pour que les auditeurs et auditrices sachent que c'était une autrice et c'est ça.
Eh bien, vous en êtes une formidable, Lily Pinsonneau. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci pour Sauf que j'ai rien dit, qui se retrouve sur notre catalogue livreaudio.vusevoix.com. Salut!
Salut, merci, bonne journée.
Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors, une petite précision avant d'ouvrir cette seconde partie de l'émission Des livres pleins les oreilles, c'est que cette émission a été enregistrée un mois avant que commence le Festival international de la littérature qui, contre vents et Covid, aura bel et bien lieu si tout va bien. C'est pour ça que je précise que ça a été enregistré il y a un mois, du 18 au 27 septembre. Autrement dit, si vous écoutez cette émission là, maintenant, eh bien vous êtes à la veille de profiter de lectures absolument mémorables. Michel Corbeil, co-préside même à la destinée de cette aventure littéraire depuis 25 ans, va nous en dire un petit peu plus au sujet de sa programmation virus ou pas. Et puis ensuite, un petit peu d'exercice, ça ne nous fera pas de mal. Je vais vous proposer des livres à vous mettre entre les oreilles lorsque vous irez vous dégourdir les jambes. Bonjour Michel Corbeil.
Bonjour, chère Clotilde. Comment allez-vous?
Bien, 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 merci. Hélas, cette année, comme toutes les autres, je ne pourrai pas faire une émission spéciale pour toutes sortes de raisons. Bon, je vais vous le dire, je déménage. Alors, pendant 2 semaines, la fille, elle va s'absenter pour être dans les boîtes jusqu'au cou. Mais je voulais quand même être fidèle à la promesse que je vous avais faite de toujours évoquer ce Festival international de la littérature, parce que pour moi, c'est exactement le prolongement du métier que nous faisons ici chez Vues et Voix, en l'occurrence enregistrer des livres audio, puisque vous faites la part belle aux livres, aux textes lus à voix haute.
Alors,
ça commence, là aujourd'hui en principe on est le 17, donc ça commence demain
ça
pour vous.
Demain.
Voilà,
ça va commencer demain. Comme vous, j'apprendrai pas à vos auditeurs et auditrices qu'on a eu des mois un peu étranges,
c'est mon Dieu.
Dire. Au cours des derniers mois, comme je me plais à répéter, il y a eu un moment où on avait l'impression de vivre dans un mauvais film de science-fiction.
C'est vrai. Hein.
Mais depuis le début, je vais vous dire, depuis la mi-mars, moi je me suis toujours dit qu'il y aurait un festival, il y en aurait un. Alors, on a commencé à élaborer des plans A, des plans B, des plans C pour que les spectacles qu'on avait déjà prévus puissent avoir lieu. Et après ça est venu, on a lancé des invitations aussi pour des projets qui viendraient compléter cette programmation en disant toujours cette phrase qui est devenue mon leitmotiv, c'est « Ici, on rêvait à l'automne ». Parce que pour moi, il y avait une part très, très importante, c'est qu'il fallait surtout pas... Il y avait des moments de découragement, il y avait des moments de rage même, par moments de colère, mais il fallait continuer à rêver. Et c'est ce qu'on a fait avec les artistes, les écrivains, avec nos partenaires, les directeurs de salles. Donc, on a rêvé ce festival-là qui va avoir lieu.
Et non seulement qui va avoir lieu, mais en plus, il y a même des salles qui vont réouvrir à cette occasion-là. Et ça, c'est quand même génial, quoi.
Oui, complètement, parce qu'on va le faire en salle, on va le faire de façon aussi numérique, naturellement, parce
bien
qu'il y a des gens qui toujours seront effrayés peut-être d'aller dans des salles, bien que, je le répète, on va respecter vraiment toutes les contraintes sanitaires à la lettre. Mais il y a quand même un volet aussi virtuel, numérique, mais qui est tout aussi audacieux que ce qu'on fait normalement dans les
par
salles.
Par exemple, donc, en numérique.
Moi j'ai eu un moment dans cette période, du mois de mars, j'ai vu passer 4 romans que j'aimais beaucoup et 4 romans qui finalement, pour moi, sont devenus un peu les inoubliés du printemps parce qu'ils sont parus exactement au début du confinement.
Okay.
Alors, ce qui fait que je pense au livre de Hélène Dorion, que j'ai adoré, que vous avez certainement lu vous aussi, Laurie Saint-Martin, Véronique Marcotte, et puis Sophie Letourneau, La chasse à l'homme, là.
Oui. Non, mais j'ai lu sur le sujet, mais malheureusement, je l'ai pas encore lu, celui-ci.
Bon, alors, dans le cas de ces 4 romans qui étaient les inoubliés du printemps, que je voulais qu'ils restent des inoubliés, et non pas des oubliés, des inoubliés, on a trouvé des actrices qui pouvaient lire chacun de ces romans-là, et on en fait des créations vidéo. Je vous donne un exemple. Le livre de Véronique Marcotte, par exemple, se passe à Montréal et se passe en Haïti. Donc, il y a toute une partie de la lecture qui va être en noir et blanc, qui se passe à Montréal, et en couleur pour quand on arrive à Port-au-Prince, parce que être en Haïti, de toute façon, on le sait, c'est la couleur, c'est les parfums et tout. Donc, chacune de ces créations-là est vraiment comme un petit bijou, finalement, avec une actrice, avec une vraie réflexion. Et puis, il y a le salon de notre Claudia, qui est aussi
bien
votre porte-parole.
Ben oui.
On s'est dit, on va créer nous-mêmes notre émission.
Claudia La Rochelle, donc elle va recevoir tous les jours des gens avec qui, on le sait, elle va dialoguer de façon tellement sympathique comme elle seule sait le faire, c'est vraiment génial.
Tout à fait, alors on commence d'ailleurs le premier jour, le vendredi, c'est justement avec les autrices des Inoubliés du printemps, et ça va lancer en même temps la diffusion en ligne, parce que ça va être une diffusion en ligne, et puis après ça, pendant toute la semaine, elle reçoit des auteurs de la rentrée, ça va de Tristan Malavoie, James Hahnemann, José Blanchette, Mireille Gagné.
Mais Tristan, hein, dont le livre est sorti il y a quelques semaines, et ça marche, et ça, je suis contente. Ah, c'est fantastique.
Ah, c'est merveilleux.
Bon,
ce
Je voudrais qu'on fasse peut-être un gros plan sur un des événements. C'est mille voient mes yeux. J'ai réalisé un petit montage. Je voudrais qu'on ait le temps de l'entendre pour que les gens qui ne connaissent pas le fil sachent que parfois c'est savoir aussi marier la poésie, la musique, la littérature à des voix. Et ici, c'est celle de Évelyne de la Chenelière et le musicien Vincent Legault, dont on va entendre la musique.
D'accord. C'est magnifique, hein? Vraiment. Ça, c'est l'album, vous voyez, c'est l'album Mille. Et à partir de cet album-là, il y a à la fois Évelyne, Vincent et Félix-Antoine Boutin, qui est quand même le metteur en scène, réalisateur, qui ont créé un objet qui est entre le théâtre, la musique, le cinéma, et qui vont présenter, c'est une création, qui vont présenter dans le cadre du film. Et en présence, c'est ça, je n'ai pas le droit de le dire, mais je vais vous le dire à vous, d'accord, en secret.
De toute façon, on est à la veille, là.
Il va y avoir naturellement Vincent et Evelyne qui vont être sur place et qui vont à un moment sortir de la projection et faire un bout de performance live finalement. Wow. On a beaucoup travaillé comme ça avec plusieurs artistes où quand je vous parlais des plans A, des plans B, des plans C, il y a eu un moment où on s'est dit il faut comme essayer de voir si jamais à la dernière minute, je vous entendais en présentation dire mais si jamais on peut pas, nous on sait que tout ce qu'on a fait, on peut le présenter. Mais il aura peut-être une forme un peu différente si jamais on ne peut pas être en salle pour une raison folle. Mais moi, je suis totalement confiante. Mais je pense aussi à Tous les monstres naissent égaux avec Marie-Pierre Labrecque, qui est à la fois de la danse, à la fois de la poésie. Ce texte est absolument extraordinaire. Et qui a aussi une vidéo où Marie-Pierre, finalement, sort de l'écran pour devenir, finalement, le personnage même de ce film, mais en vrai devant les gens. Donc, on a beaucoup travaillé de cette façon-là avec les artistes.
Je vous interromps parce que je veux à tout prix, Michel, que vous nous parliez de Les voix de la résistance et du courage, imaginé par vous-même et Olivier Kemed. ce sera le spectacle d'ouverture, le cabaret de la résistance.
Ben écoutez, je pense que le cabaret de la Résistance, l'idée est née parce qu'il y a eu un moment où je vous parlais tantôt de où on était bon vraiment enthousiaste, puis à un moment découragé, et c'était mon cas et c'était le cas d'Olivier. Et on avait d'autres projets de spectacle qu'il a fallu vraiment abandonner. Il y a un moment, ça devenait, c'était impossible de les faire avec les conditions. Et puis moi j'ai dit à Olivier, écoute vraiment là, il faut faire quelque chose, il faut, tu comprends, ouvrir les théâtres, c'est un geste de résistance. Et on est des résistants, toi et moi. Et là, il y a un moment, j'ai vu Olivier s'illuminer et tout ça. Tu m'as dit, mais Michel, on en fait un cabaret de la résistance. Okay? On va demander à tous nos, à nos amis, à la fois, la distribution est très variée, finalement, parce qu'il y a à la fois des gens qui devaient être au 4 sous à la rentrée automnale et des gens qui font partie du fil. Et à tous ces gens-là, on demande de venir dire un texte sur la résistance, finalement, un texte d'un auteur québécois ou étranger, mais un texte qui, pour eux, parle de cette résistance-là. Et moi, d'ouvrir le 4 sous, parce que ça va être le premier spectacle du 4 sous, avec des gens que j'aime beaucoup, très bon, il y a 14 lecteurs, finalement. C'est un geste de résistance et de dire, ce festival-là est debout. Oui. On est debout, on est vivant, et puis on ne laissera pas tomber. Oui.
Et le théâtre est vivant, et les salles sont vivantes, et la littérature et la culture en général, bazar, c'est celle qui a tellement été délaissée encore une fois durant toutes ces.
Alors que
malheureusement, qu'est-ce qui peut tenir un homme debout? Je veux dire, quand on était tous confinés, bazar, qu'est-ce qui nous a tenus debout? Non, il n'y avait pas que Netflix, il y avait aussi les livres, il y avait aussi la peinture, il y avait aussi la musique. Qu'il y avait aussi tout
exactement.
Ça, quoi.
Et puis, le fait de faire des représentations devant le public, c'est aussi très important.
Oui.
Moi, j'allais voir le spectacle de Dear Criminals, dont fait partie Vincent, d'ailleurs, qui a fait 1000 là, au Lion d'Or, où on était une personne à la fois à les écouter chanter une chanson.
Oh.
Moi, j'ai pleuré du début jusqu'à la fin de ma chanson, parce que soudainement, j'étais devant des gens, c'était au mois de mai, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on était comme isolés complètement. Et d'entendre pour vrai des gens me dire un texte, me chanter une chanson, je me suis dit, même si c'est devant 50 personnes, même si c'est devant 20 personnes, on va le faire.
Exactement.
Parce que c'est important.
Merci Michel Corbeil. C'est pour ça que vous, votre équipe, je pense aussi à Jérémy Niel et tous les artistes qui vous suivent depuis tant d'années et notre émission aussi qui va continuer de vous suivre, c'est pour ça. Merci de vous tenir debout.
Merci mille fois.
Bon festival de la littérature, internationale de la littérature, et merci d'être là. Salut Michel.
Salut, à bientôt. Merci.
On a tous besoin d'une idole. Dans la vie, faut avoir un but. Il y en a qui se font raser la bolle. D'autres qui militent dans le PQ. Dans la vie, faut avoir un but. Et pour moi, le bonheur, c'est le sport. La seule affaire que j'aime à mort. Avec une bière dans mon salon, voir le sport à la télévision. Les gens de la ville se cherchent une terre. Ceux de la campagne, un bungalow. Ma tante qui rêve d'être millionnaire se ruine en achetant de la loto. Dans la vie, ça prend un drapeau. Mais pour moi, le bonheur, c'est le sang. La seule affaire que j'aime encore. Avec une bière dans mon salon, voir le sport à télévision. Notre belle jeunesse est énergique et pratique le sport amateur. 200 à l'heure, un gros basic. Tout le monde court après le bonheur. Et dans la vie, ça prend un bon cœur. Les cœurs. Et pour moi, le bonheur, c'est le sport. La seule affaire que j'ai à prendre. Avec une bière dans mon salon, voir le sport à la télévision.
Mais merci à vous, Clémence. Bon, pourquoi avoir choisi cette chanson-là? Simplement parce que j'ai eu envie. On a fait beaucoup dans l'intello, dans les gros questionnements, dans tout ça. Je me suis dit, oh, allez. Et si on se mettait des chaussures de sport aux pieds quand on allait courir, mais qu'est-ce qu'on peut écouter comme livre audio quand on court? Je me suis dit, qu'est-ce qui existe sur le fait de courir, sur le fait de se défoncer pendant, par exemple, tout un marathon? Ben, il y a pas mal de choix, mes amis. Par exemple, il y a ce livre qui s'appelle Courir de Jean Echenoz, qui est reconnu évidemment comme un auteur très très prolifique, mais qui est aussi un sportif. Et quoi de mieux qu'un sportif reconnu pour accompagner une course? Eh bien, c'est ce que va faire Monsieur Echenoz. Il va accompagner Émile Zatopek, cette légende de la course à pied, originaire de Moravie. Monsieur Echenoz qui nous raconte donc la vie de cet homme qui a toujours couru d'une façon, je dois dire, assez peu orthodoxe. Il avait un style que les gens n'aimaient pas. Il doglinait beaucoup de la tête et ça devenait fatigant pour lui. Mais il n'empêche qu'il a gagné des courses. Il a gagné des courses, cet être qui était d'une maigreur infinie. Et il faut rappeler, et c'est ce que fait Echenoz, qu'il n'a que 17 ans quand le pays, son pays, la Moravie est envahie par les Allemands et les premiers pas qu'il va faire dans la course à pied viennent du fait qu'il travaille chez Bata. Bata, c'était une grande entreprise de chaussures européennes. Et Bata, où il travaille, impose aux salariés de prendre part à des courses à des fins publicitaire. C'est comme ça que ce jeune garçon va se mettre à courir. Alors, bon, écoutez, ses résultats, à 26 ans, il remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Londres sur le 10 000 mètres et puis l'argent sur 5 000. Un type très, très, très inspirant. Et on nous dit notamment dans un article paru dans Actualité que Jean Echenoz, qui lit d'ailleurs son propre ouvrage, hein, c'est la voix d'Echenoz que vous allez entendre, ce livre prend des allures d'épopée en tant que telle. Et il faut dire qu'en matière de sport, l'éditeur s'y connaît bien. Alors, Courir de Jean Echenoz, c'est sorti et c'est une exclusivité. Non, ce n'est pas une exclusivité, mais c'est Audiolib qui a produit ce bouquin-là, lu par Jean Echenoz. En voici un extrait.
À l'arrivée, tout le monde imagine qu'après un tel effort, ayant fait preuve de ressources à ce point surnaturelles, le diabolique Émile ne peut que s'écrouler. Or, pas du tout. Il se met au contraire à gambader à travers le stade, part en petite foulée chercher un petit verre d'eau, revient en trottant vers la tribune des vainqueurs, donne une bourrade cordiale, quoique respectueuse, à Eino éprouvé, puis, pirouettant, se dresse en impeccable équilibre sur les mains, se mettant même à courir quelques mètres sur elles, pour changer un peu. Franchissant les barrières en vociférant, le contenu des tribunes se déverse sur lui. Émile est noyé dans une foule frénétique au milieu de laquelle, entre deux têtes joviales, il aperçoit le docteur Kninicki, pleurant de bonheur et plus hilar que tous. Puis, après que l'on s'est un peu calmé, il se retrouve dans un pub devant deux pintes de bière sur laquelle Émile ne crache pas, le docteur Kninicki non plus. « Eh bien, dis donc, lui dit le docteur, tu avais l'air d'avoir un de ces torticolis. Tu grimaçais encore plus aujourd'hui qu'à Berlin. » « Je sais bien, reconnaît Émile, c'est ce qu'on me reproche tout le temps. À l'entraînement, aux compétitions, ils disent tous ça. Mais je ne peux pas faire autrement, ce n'est pas un genre que je me donne. Je te jure que ça fait vraiment mal, ce que je fais. Si tu crois que je n'aimerais pas mieux sourire... » « Tu pourrais quand même essayer, » suggère distraitement le docteur en levant la main pour renouveler sa pinte. « Je n'ai pas assez de talent pour courir et sourire en même temps, » reconnaît Émile en levant aussi la sienne. « Je courrai dans un style parfait quand on jugera de la beauté d'une course sur un barème, comme en patinage artistique. Et moi, pour le moment, il faut juste que j'aille le plus vite possible. »
Courir, courir. J'ai envie de vous proposer un livre de Monsieur Haruki Murakami, très connu aussi, qui a ses fans en tant qu'auteur. Mais saviez-vous que cet homme-là est un coureur de fond absolument inépuisable? Et il a écrit un bouquin, Murakami, sur justement la détermination, la patience, l'abnégation, la volonté, toutes ces qualités qu'il faut pour s'élancer, à la fois dans un texte qui tient tout à la fois de l'essai sur la course à pied, que ben, quand il court lui-même sur les pistes de partout. Alors je vous présente un extrait de Autoportrait de l'auteur en coureur de fond de M. Haruki Murakami. Voici l'extrait.
Je suis quelqu'un de lent et de méticuleux, sans doute. Et comme je me montre incapable de réfléchir vraiment sans écrire, si je veux appréhender la signification qu'a pour moi le fait de courir, je dois laisser mes mains s'activer sur le papier. Un jour, allongé dans une chambre d'hôtel à Paris, j'étais occupé à lire l'International Herald Tribune quand je suis tombé sur un article spécialisé sur le marathon. Le papier comprenait des interviews de plusieurs marathoniens célèbres à qui l'on demandait quelle sorte de mantra ils se récitaient afin de se stimuler durant la course. J'ai trouvé la question très intéressante. J'ai admiré combien de sujets différents agitaient le cerveau de ces sportifs, tandis qu'ils accomplissaient leur parcours de 42,195 km. Cela montrait simplement à quel point le marathon est une épreuve rude. Sans mantra, les coureurs n'auraient tout bonnement pas tenu le coup. L'un des participants se répétait une sentence que lui avait apprise son frère aîné, lui-même coureur, et sur laquelle il avait réfléchi depuis ses débuts de coureur. Voici quel était son mantra. La nuance exacte est difficile à rendre en français, mais si je tente de traduire le plus simplement possible, cela donne « on ne peut éviter d'avoir mal, il dépend de soi de souffrir ou non ».
Courir est mon plaisir, une échappée belle à portée de jambe. Courir est un besoin, une bulle qui suspend la vie. Courir offre une liberté insolente, une ligne de fuite. Mais courir peut rendre prisonnier. Moi, courir m'a sauvé la vie, écrit Bernard Thomasson, qui a également consacré un livre au marathon qui s'intitule 42 km 195 et dont voici un extrait lu par l'auteur Bernard Thomasson.
Mon frère a toujours été un grand sportif. Basket, tennis, squash, natation, tout lui réussissait. À l'inverse, ma santé fragile m'a toujours éloigné des stades et des gymnases. J'étais régulièrement dispensé de cours d'éducation physique. Et me voilà aligné pour le marathon de Paris. Quel paradoxe! Lorsque je lui ai présenté mon projet, surtout après ce qui m'est arrivé, Raphaël m'a dit sa fierté et celle qu'aurait eue maman. Avec Manon et Amy, ils sont déjà positionnés au 5e kilomètre. Ils vont m'encourager d'ailleurs à plusieurs points du parcours. Maman me manque aujourd'hui. Je crois qu'on va avoir un temps idéal, me glisse un quadragénaire qui se retrouve à ma hauteur. C'est quoi un temps idéal? Pas trop chaud, surtout pas trop chaud. Mieux vaut se les briser un peu avant le départ, mais ne pas être écrasé dès le milieu de matinée. J'ai connu ça à Saragosse il y a 2 ans. Pourtant, en automne, fin septembre, un putain de cagnard, j'ai failli ne jamais en voir le bout. Ah, mais vous avez terminé quand même? Sur les genoux, lessivé, épuisé, vidé. 4h5, mon plus mauvais temps. Et toi? Moi, c'est mon premier. Génial! Pour le premier, tu sais, le seul truc qui compte, c'est de finir. Y parviendrai-je seulement?
La vie c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage, voyant. Tu dis c'est pas mon destin, ou bien tu dis c'est dommage, et tu pleures. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Bon, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Si je ne te comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Bon, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. j'irai jusqu'au bout du chemin. Et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard. Et tu tiens. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage un matin. Et je regarde ceux qui s'allument aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimeraient peut-être. Trop je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Même si je te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Trop je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. S'endorment aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. On vous dira sans doute que mon histoire est bizarre. Je sais, mais je peux pas m'arrêter vu qu'il n'y a plus de nom sur les.
Voilà, c'est avec l'ami William Scheller que s'est refermée cette nouvelle édition de l'émission Des livres pleins les oreilles. Je voudrais remercier les invités qui ont accepté de répondre à mes questions, Robert Blondin, Lily Pinsonneau et Michel Corbeil. Remercier aussi en régie Maurice Bolduc aujourd'hui. C'était Clotilde Say qui vous souhaite à toutes et à tous, que ce soit sur les ondes de CKVL, à Canalem ou encore en balado, ben je vous souhaite de bonnes lectures de livres audio. Faites circuler le livre audio. C'est une autre façon de lire. Salut, à la semaine prochaine.